France Inter.
Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. L'avenir est-il au vin anglais? Produire en Méditerranée ne sera quasiment plus possible d'ici à la fin du siècle avec le réchauffement climatique. On va vous détailler dans un instant la future carte des vins et des vignobles. Quand un Premier ministre parle de rigueur à deux reprises dans la même intervention, cela augure de coupes sévères pour ramener le déficit dans les clous. L'actualité, c'est encore le proviseur de Ravel à Paris qui quitte ses fonctions pour des raisons de sécurité. Des Palestiniens qui se noient en tentant de récupérer des colis d'aide largués par avion. Nous sommes à Baltimore après le terrible accident de la nuit dernière. Un pont qui s'écroule entièrement. À Lyon pour le plan de bataille de la ville contre les fast-foods. Et puis juste après ce journal, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau est dans ce studio. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter.
Avec un réchauffement à plus de 2 degrés, on est déjà presque à 1,5. C'est presque 90% des régions viticoles du sud de l'Europe qui ne pourront plus produire de vin de façon rentable. L'échéance, c'est donc la fin de ce siècle, quasiment demain. Le constat est d'une équipe de chercheurs français qui a synthétisé une bonne partie des études existantes. C'est très solide. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Alors à quoi ressemble cette future géographie du vin?
Eh bien c'est une carte totalement bouleversé, Hélène. Le vin, on le sait, a besoin de chaleur, mais sans excès. Le réchauffement affecte sa qualité et la sécheresse peut l'améliorer, mais elle fait diminuer les rendements. Alors, ces chercheurs des universités de Bordeaux et de Bourgogne et de l'INRAE, l'Institut de Recherche pour l'Agriculture, ont simulé deux scénarios, plus 2 degrés et plus 4 de réchauffement à la fin du siècle. Résultat, quasiment toutes les régions côtières en Espagne, en Italie, en Grèce, ne pourront plus produire comme aujourd'hui, alors qu'au nord de l'Europe, on pourrait en profiter, souligne Cornelis van Leeuwen, professeur de viticulture à Bordeaux, Sciences Agro, premier auteur de cette étude.
Dans le nord de l'Europe, on voit qu'il y a des opportunités pour la viticulture qui émergent en Angleterre, dans le Benelux et une grande partie de l'Allemagne et même jusqu'au Danemark et en Pologne.
Bref, du vin polonais ou même danois sur nos tables d'ici la fin du siècle, ce n'est plus à exclure.
Et la France tire son épingle du jeu, Rémi, mais ça ne sera pas sans grand bouleversement.
Oui, car la France s'en sort mieux que l'Italie ou l'Espagne à plus 2 ou plus 4 degrés, car la limite géographique pour produire du vin de qualité en quantité se déplace vers le nord. Et la France est à cheval, explique Cornelis van Leeuwen.
En France même, on voit quelques vignobles qui se développent en Normandie et en Bretagne. Et là aussi, le climat devient propice à une viticulture.
Pendant ce temps au sud, les dégâts du réchauffement seront moins importants qu'en Italie ou en Espagne. Mais il faudra s'adapter car le rendement va diminuer. Alors le chercheur préconise de limiter la concentration des pieds de vigne, par exemple, pour réduire la consommation d'eau. Et de changer de cépage, fini le Sauvignon blanc ou le Chardonnay dans le sud de la France.
Le Grenache, le Carignan, le Mourvèdre sont des cépages qui se comportent finalement très très bien dans des différents scénarios de changement climatique. Il faut s'inspirer des bonnes recettes que finalement les viticulteurs du passé méditerranéen ont mis au point depuis des millénaires.
Autre solution envisagée, évidemment, l'irrigation, mais la prudence, disent les chercheurs, face à une ressource en eau qui sera forcément limitée.
Un problème qui concerne aussi les États-Unis. 10% de la production de vin en Amérique du Nord est concentrée sur la côte ouest, dans le nord de la Californie, qui, on le sait, est menacée par un climat très chaud et très aride.
Il est 19h04, Hélène, la facture est salée.
Celle du déficit, haut comme jamais hors période de crise, l'INSEE l'a confirmé ce matin, 5,5% du PIB. Le produit intérieur brut en 2023, c'est 0,6 points de plus que ce qu'anticipait le gouvernement. Un dérapage de 15,8 milliards d'euros. Bonsoir Claire Chaudière.
Bonsoir.
Les oppositions parlent cet après-midi d'un désaveu, d'un gouvernement discrédité, décrédibilisé. Comment Bercy a-t-il pu passer à côté d'un si gros trou?
Eh bien, paradoxalement, en raison d'une bonne nouvelle, a expliqué ce matin Bruno Le Maire, l'inflation a baissé plus vite que prévu en 2023, ce qui fait mécaniquement baisser les recettes de TVA, moins 4 milliards. Autre effet de ce ralentissement de l'inflation, la courbe des salaires et notamment le SMIC qui est indexé a elle aussi impacté les recettes fiscales. Cotisations sociales, masse salariale et impôts sur le revenu, moins 7 milliards au total. Le revers de la médaille, en somme, résume le ministre de l'économie. Ajoutez à cela une taxation des énergéticiens moins efficace que prévu, une crise immobilière qui fait elle aussi moins de rentrées fiscales, c'est ce qu'on appelle les droits de mutation, et des recettes d'impôts sur les sociétés financières financière en berne. Là, le gouvernement n'a pas vraiment l'explication. On en saura plus dans les prochains mois. Et on voit bien comment Hélène se décompose, ce manque à gagner.
Et tout ça suffit à expliquer.
Alors, oui et non. Ce que dit l'INSEE tout de même aujourd'hui, c'est que les recettes de l'État sont globalement pénalisées par le ralentissement économique. Il a commencé à peser sur les comptes publics l'an dernier, même si son poids se fera surtout sentir cette année. Et puis, 2023 arrive après une année 2022 de très bonnes surprises. Et c'est peut-être un point important. En 2022, on avait eu des régularisations d'impôts sur les sociétés portant sur l'activité 2021, activité censée être mauvaise juste après la période Covid, mais qui avait en réalité été très bonne. Résultat, 11 milliards de recettes de plus dans les caisses de l'État, d'où ce contraste et peut-être aussi les difficultés à viser juste sur les prévisions.
Alors la France s'est engagée à repasser sous les 3% d'ici à 2027, engagement répété aujourd'hui par le ministre de l'Économie. Il faudra donc trouver des dizaines de milliards d'euros d'économies. Le gouvernement a déjà mis sur la table la réforme de l'assurance chômage, des coupes dans les dépenses sociales. Et le Premier ministre a choisi un mot qui en dit long cet après-midi pour répondre aux questions à l'Assemblée nationale, celui de rigueur.
La réalité, c'est qu'il y a un ralentissement économique, que face à ça, il faut évidemment une très grande rigueur dans les choix que nous faisons. C'est ce qu'a fait mon gouvernement en assumant un décret d'annulation de 10 milliards d'euros de crédit, parce que c'est du bon sens. Quand vous avez moins de recettes, il faut ajuster vos dépenses, et je pense que les Français l'ont très bien compris. Pour le reste, monsieur Marleix, nous allons poursuivre sur cette voie de rigueur et de responsabilité, avec toujours un fil rouge, c'est celui du travail. C'est ce que nous allons poursuivre avec la réforme de l'assurance chômage, parce que plus nous aurons de Français qui travaillent, plus nous aurons de possibilités d'équilibrer nos finances. Et j'espère que nous pourrons nous rejoindre sur un certain nombre de points.
La rigueur par deux fois dans les mots de Gabriel Attal à l'Assemblée. Les oppositions de gauche et de droite sont furieuses. À force de surestimer la croissance, Bruno Le Maire a sous-estimé le déficit. Regrette l'insoumis Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances à l'Assemblée. Emmanuel Macron est comptable de ce bilan désastreux pour LR, tandis qu'au RN, on accuse le gouvernement de vouloir des impôts plutôt que d'une réduction des coûts de l'immigration. C'est sur ce thème que le Rassemblement national se réunit d'ailleurs aujourd'hui, les États généraux de l'immigration, pour draguer l'électorat de droite. Jordan Bardella veut en faire un pilier de sa campagne pour les européennes en mettant désormais ses origines italiennes en avant, Élodie Forêt.
Les parents de Jordan Bardella ont donné leur accord à l'animatrice Karine Le Marchand. Selon nos informations, ils apparaîtront pour la première fois dans l'émission Une ambition intime consacrée à leur fils et actuellement en cours de tournage. Tous deux, d'origine italienne, ayant immigré en France, ils occuperont aussi une place importante du livre autobiographique et politique que le président du RN espère publier d'ici quelques mois. Dans ce récit, qui pour l'instant n'a pas trouvé d'éditeur, Jordan Bardella raconte l'histoire de sa famille, leur assimilation. Il se l'approprie. Je suis venu d'ailleurs, devenu d'ici, c'est sa nouvelle formule. Lui est né près de Paris. Qu'importe, j'ai fait l'effort républicain, affirme-t-il désormais sans complexe. Sur sa liste pour les européennes, le choix de la numéro 2, l'essayiste Malika Sorel, n'a d'ailleurs rien d'un hasard. Fille d'Algérien, engagée, je cite, contre la décomposition française, elle salue dans le Figaro l'engagement main dans la main de deux enfants de l'immigration pour rendre à la France l'amour qu'elle leur a donné. Un narratif taillé sur mesure pour contrer les attaques en xénophobie.
Le RN, qui a peut-être été une solution par défaut pour Malika Sorel, l'essayiste soutien de François Fillon en 2017. Elle vient de rejoindre le Rassemblement National, mais elle avait envoyé des messages à Emmanuel Macron par texto pour défendre sa candidature lors du dernier remaniement. C'est une information du Canard Enchaîné, confirmée auprès de France Inter par plusieurs sources au sein du parti présidentiel. Et puis en bref encore, Nicolas Dupont-Aignan renonce aux européennes. Les sondages le créditaient de 2% d'intention de vote. Le seuil de remboursement de la campagne est à 3%.
Son nom restait une cible sur les réseaux sociaux. Le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris quitte ses fonctions.
Pour des raisons de sécurité. C'est ce que dit le message envoyé ce matin aux parents d'élèves de l'établissement, alors qu'il n'est qu'à quelques mois de la retraite. Une fin de carrière précipitée par cette altercation avec une lycéenne à qui il avait demandé d'enlever son voile fin février. Et dans un un contexte de vigilance relevée autour des écoles. Bonsoir William Delesseux.
Bonsoir Hélène.
Cette mise en retrait a été décidée d'un commun accord entre le proviseur et le rectorat.
Oui, les menaces ces derniers jours ont continué à se propager sur les réseaux sociaux. Pas de nouvel incident dans l'établissement depuis l'altercation d'il y a un mois. Reste que le proviseur est devenu une cible. Son nom circule, il est toujours menacé de mort, nous raconte plusieurs de ses collègues. Le chef d'établissement souhaite rester à son poste, fort du soutien de la communauté éducative, de la ministre Nicole Belloubet. Mais en fin de semaine dernière, les menaces sont analysées comme étant très sérieuses. Le proviseur est un homme inquiet avec le rectorat. D'un commun accord donc, les deux parties choisissent cette mise en retrait officiellement pour convenance personnelle. En réalité, pour le protéger, assurer la sécurité des professeurs comme des élèves, ceux qui le connaissent décrivent un ex-proviseur aujourd'hui rassuré par cette décision. Il accepte cette mesure de protection avec toutefois une forme d'amertume, celle de ne pas pouvoir finir l'année.
William Delesseux, à Grenoble, la police recherche un homme d'une vingtaine d'années accusé de viol et d'agression ces deux derniers mois. Il circule sur une trottinette noire et agit la nuit sous la menace d'un couteau, selon les informations de nos confrères de France Bleu. On suit ce procès à Paris de quatre hommes poursuivis pour vol de bijoux, de liquide à des personnes âgées en se faisant passer pour de faux policiers. Morgane Clarefait, vous suivez cette audience, à chaque fois donc le même mode opératoire.
Oui, un faux plombier ou chef de chantier sonne chez les victimes, explique devoir vérifier les arrivées d'eau. Et dans la foulée, un ou deux hommes se présentant comme des policiers déboulent. Ils disent chercher un faux agent des eaux et vont jusqu'à lui passer parfois les menottes. Arrestation plus vraie que nature. Les faux policiers insistent ensuite auprès des victimes pour qu'elles regardent si leurs bijoux, leurs objets de valeur sont toujours là. Occasion parfaite pour les voler. Des faits qui ont traumatisé ma cliente, lance l'avocate de la seule victime à s'être portée partie civile près de 5 ans après les faits. Ces victimes, on a voulu profiter de leur âge, 82 à 96 ans, acquiesce le procureur de la République. Il charge les prévenus peu scolarisés, handicapés pour certains, sur la base d'images de vidéosurveillance, de la présence de véhicules qui leur appartiennent près des domiciles des victimes. Peut-on sérieusement distinguer les prévenus sur ces images? Non, lance un avocat de la défense. Il y a pour lui des indices, mais pas de preuves. J'ai envie de demander au tribunal si vous êtes plutôt gruyère ou condé en braille une de ses collègues, car il n'y a que des trous dans ce dossier. Tous demandent au nom du doute la relaxe. Le jugement sera rendu dans un peu moins d'un mois.
Compte rendu d'audience signé Morgane Klein refait. À côté des opérations Place Net, les enquêtes au long cours. À Nancy, l'une d'elles vient de démanteler un vaste réseau d'importation. 800 kilos de drogue saisis, la moitié de cocaïne, 7 personnes interpellées. Et dans la lutte contre le narcotrafic, Bruno Le Maire veut pouvoir geler les avoirs des trafiquants. Le ministre de l'Économie persuadé de l'efficacité de les frapper au portefeuille.
L'enquête s'oriente vers un accident à Baltimore.
Une perte momentanée de propulsion de cet énorme cargo sous pavillon de Singapour qui n'a pu éviter la collision avec ce pont de Baltimore aux États-Unis. L'édifice s'est écroulé quasiment instantanément en pleine nuit. 6 personnes toujours portées disparues. Un terrible accident, dit Joe Biden, le président américain. Sébastien Paour est notre envoyé spécial.
Le porte-conteneur est encastré dans le pilier du pont. Un amas de ferraille est à moitié sur l'avant du navire, à moitié dans l'eau, des hélicoptères au-dessus, des bateaux de secours autour. Rob observe la scène depuis sa terrasse.
D'ici, je peux voir que le pont s'est pratiquement effondré. Je vois le bateau, le cargo qui s'est immobilisé. Je suppose que l'infrastructure du pont l'a arrêté une fois qu'il a perdu son alimentation électrique. Vous pouvez voir le cargo d'ici, à l'arrêt, après l'effondrement complet du pont. C'est assez incroyable de voir à quel point il s'est effondré.
Toute la partie centrale du pont est dans l'eau, mais le navire de 300 mètres a pu prévenir qu'il avait perdu sa propulsion et qu'il y avait un risque de collision. Certains des véhicules et des ouvriers qui travaillaient de nuit sur l'ouvrage ont pu le quitter avant le choc. Les secours recherchent des survivants dans l'eau à 7 degrés. Olivia croise les doigts. J'espère qu'ils pourront sauver d'autres personnes. Je sais qu'il y avait quelques voitures sur le pont quand il s'est effondré. Dieu merci, cela ne s'est pas produit à 6 ou 7 heures du matin, car la circulation est généralement à l'arrêt sur le pont. Et ça aurait été un désastre. Le trafic est interrompu dans le port jusqu'à nouvel ordre. Baltimore, Sébastien Paour, France Inter.
En Grèce, c'est une nouvelle tempête politique. Un an après la catastrophe ferroviaire de Tampé, des pièces à conviction ont-elles été falsifiées? Révélation de presse qui sème le doute une nouvelle fois sur la manière dont les autorités conduisent l'enquête, au point que les oppositions viennent de déposer une motion de censure contre le gouvernement. La résolution votée hier à l'ONU n'a encore eu aucun effet dans la bande de Gaza. Les bombardements israéliens ont continué. Aujourd'hui, l'aide humanitaire manque toujours autant si elle ne tue pas. 18 morts par noyade ou bousculade selon le Hamas, de personnes tentant de récupérer les colis jetés à la mer. Étienne Monin.
Sur une des vidéos postées sur le réseau social X, on voit un nuage de petits parachutes noirs en bord de mer, des Gazaouis qui se jettent à l'eau au milieu des vagues pour récupérer les paquets et un homme sur le sable, visiblement noyé, que des mains essayent de ranimer. Depuis des semaines, les Gazaouis dénoncent ce type de largage de l'aide humanitaire par avion. C'est un mauvais pansement, dit Ziad Medouk, professeur de français resté dans le nord de l'enclave, joint par WhatsApp.
Ces cartons, malheureusement, soit ils tombent dans la mer de Gaza. Et souvent, ces cartons tombent sur les toits des maisons et quelquefois sur la tête des personnes palestiniennes, surtout dans la ville de Gaza et dans le nord de la bande de Gaza. Les aides humanitaires n'arrivent pas. Il n'y a même pas 3 camions qui arrivent par jour. Et dans ces camions, il n'y a pas grand-chose.
La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Jordanie font partie des pays impliqués dans ce type de distribution. Les ONG estiment qu'elles ne servent à rien dans l'océan des besoins. Elle plaide pour une levée des restrictions imposées par l'armée israélienne sur les files de camions qui attendent en Égypte à la frontière. Le nord de Gaza est aujourd'hui menacé par la famine. Le sujet de la distribution alimentaire est devenu un intense terrain de communication pour le Hamas et Israël.
Et la résolution à l'ONU n'a pas d'effet non plus sur les discussions en cours à Doha. Israël décide même de claquer la porte des pourparlers en accusant le Hamas ce soir. Un conflit dont il sera question entre Emmanuel Macron et Lula, le président. Président brésilien, le chef de l'État y est attendu pour une visite d'État de 3 jours. C'est la première fois depuis 2017. Et même si les relations avec Lula semblent en apparence plus chaleureuses qu'avec son prédécesseur Jair Bolsonaro, les sujets de tension restent nombreux. Bonsoir Maxence Lambrec.
Bonsoir.
Vous suivez ce déplacement pour France Inter et parmi ces sujets, il y a l'Ukraine.
Oui, cela fait 2 ans qu'Emmanuel Macron tente d'éloigner l'Inde et le Brésil de l'alliance des BRICS qui les raccroche à la Russie. En vain, Lula ne condamne toujours pas l'agression russe, estimant que Kiev a une part de responsabilité, que c'est un conflit régional. Pas question de s'aligner sur les États-Unis, même logique quant à Israël. Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien, a-t-il lancé le mois dernier, ne s'est produit à aucun autre moment dans l'histoire. En fait, si, ça s'est déjà produit quand Hitler a décidé de tuer les Juifs. L'Élysée désapprouve mais ne veut pas s'y attarder. Nous allons chercher les points de convergence pour trouver une issue à la crise. Enfin, l'éléphant dans la pièce, comme le dit un membre de la délégation, c'est bien sûr l'accord de libre-échange du Mercosur que Paris rejette. Mais Emmanuel Macron n'en parlera pas à Lula si on en croit ses conseillers. Le but n'est pas de négocier, de convaincre qui que ce soit, confirme une source brésilienne. Traduction, n'allons pas gâcher avec ça cette belle visite d'État qui commencera dans une exploitation écolo de chocolat. L'heure est bien à la douceur.
À quelques jours de Pâques, pourtant la fève est amère. Le cacao dépasse aujourd'hui les 10 000 dollars la tonne. C'est le risque que les prix grimpent et c'est 3 fois plus qu'il y a 1 an. Emmanuel Macron qui était à Kourou tout à l'heure et l'on a désormais une date pour le premier vol d'Ariane 6. Ce sera le 22 juin prochain. Information France Inter, nouvelle fenêtre de tir après 4 ans de retard pour la fusée européenne nouvelle génération. C'est en raison de cet agenda chargé du président que le projet de loi d'orientation agricole sera par ailleurs présenté le 3 avril en Conseil des ministres et non plus vendredi comme prévu initialement.
À 19h presque 19, Lyon a un plan de bataille pour lutter contre les fast-foods.
C'est l'implantation programmée d'un KFC en plein centre-ville qui a relancé le débat à 2 pas de la mairie, tenue désormais par des écologistes. La ville a donc décidé de convoquer des assises du commerce à l'automne avec la volonté de faire quelque chose, même si dans les faits, elle est bien impuissante. Mathilde Aberti est à Lyon.
La ville a contesté en vain. Un KFC va bien s'implanter rue de la République, l'artère centrale aux beaux commerciaux exorbitants. Camille Auger est l'adjointe à la ville de Lyon, écologiste en charge des commerces.
Ce sont des endroits dans Lyon où en fait seules des grandes chaînes comme ça, très rentables, peuvent s'installer parce que le loyer est très cher. Alors effectivement, il faut savoir que les collectivités possèdent assez peu de leviers. La ville de Lyon pousse avec d'autres collectivités, puisque c'est la ville de Lille notamment qui l'a proposé la première, la question de l'encadrement des loyers commerciaux. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de l'État. En tout cas, nous, on serait très favorables à ce type d'expérimentation.
Et la multiplication des fast-foods se matérialise au moment où plusieurs commerces historiques annoncent leur fermeture définitive. Un chausseur, un vendeur de meubles ou encore un chapelier. Pour l'association de commerçants My Presqu'île, il est temps de réagir. Sa présidente, Johanna Benedetti.
Par exemple, sur un axe comme la rue de la République, où on a massivement des implantations de chaînes de street food, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de mettre en place des zones de préemption, d'installer des périmètres de sauvegarde. Et je pense aussi qu'il faut envisager des fiscalité peut-être plus favorable aux commerces indépendants et artisanaux sur les territoires.
Un régime fiscal favorable aux commerces indépendants, un encadrement des loyers pour eux, quelques pistes présentées ici ou là qui seront débattues lors des assises du commerce programmées à l'automne. Lyon, Mathilde Amerti, France Inter.
Rien ne se perd, tout se répare. Le bonus réparation a même permis aux Français d'économiser 2 300 000 euros en 6 mois. Il était une grande figure de l'économie solidaire. Claude Alfandéry est mort à 101 ans dans la soirée d'hier, résistant de la première heure aussi. C'est lui qui créa plus tard France Active, une association d'aide à la création d'entreprises engagées. On accuse souvent les écrans de tous les maux. Pourraient-ils être tout de même nos alliés ? Pour la première fois, un jeu vidéo thérapeutique permet d'aider les enfants dyslexiques, dysphasiques. On parle d'enfants avec des troubles du langage, de l'écriture ou de la lecture. 1 300 000 enfants en France. L'application Poppins, à la fois jeu vidéo et dispositif médical, vient d'être validée par plusieurs études scientifiques. Alice Cachaner nous explique comment ça marche.
Couleurs flashy et musique entraînante, l'application propose à la fois des jeux de langage mais aussi rythmiques.
Et c'est parti, je dois sauter au bon moment, donc arriver à être en rythme.
Le fondateur de Poppins, Franck Vontron.
Ces jeux-là ont été vraiment designés pour stimuler des aires cérébrales en particulier, pour favoriser la connectivité entre plusieurs aires cérébrales.
Le temps d'utilisation est limité à 20 minutes, un outil complémentaire à une prise en charge orthophonique.
Aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de professionnels de santé qui font un travail incroyable, mais sur lesquels les listes d'attente sont très longues. Poppins, c'est vraiment un relais à domicile. Le but est d'avoir accès pour l'enfant à plus d'exercices.
Et à en croire la maman d'un petit garçon dyslexique, après 6 mois d'utilisation, les progrès sont flagrants.
Il fait beaucoup moins d'erreurs de lecture, moins d'erreurs phonologiques. Quand il lit le son, maintenant, il sort le bon son. Plus de fluidité, meilleure mémoire de travail.
Des observations confirmées par une récente étude clinique. Catherine Grosmaître, neuropsychologue à l'hôpital Necker à Paris.
Alors, les enfants ont utilisé 8 semaines, donc soit Poppins, soit le placebo. Et ce qu'on a montré, c'est que les enfants qui avaient eu Poppins pendant 8 semaines, progressaient davantage tant en qualité qu'en vitesse de lecture par rapport à leur père.
Pour l'heure, l'abonnement coûte environ 30 euros par mois. La marque espère obtenir un remboursement de la Sécurité sociale en 2025.
Et comment dompter nos écrans 17 ans après le tout premier smartphone présenté par Steve Jobs, patron d'Apple? Quel est l'impact du téléphone portable dans nos vies? Comment éduquer nos enfants, nos adolescents? Je vous rappelle cette journée spéciale sur France Inter. Ce sera jeudi. Et maintenant, écoutez ça.
Au début, il n'y avait que le vide. Ni les vides ni les hommes, c'est des billes, la vie de billets de banque. Le vide donc, après un petit temps, balala bing bang, voilà le big bang. Des milliers de particules entre collisions dans le vide se multiplient dans l'abîme comme des spermatozoïdes. Voilà que la terre arrive, mais c'est qu'une terre aride. Désolé les scientifiques, je sais que ça vous fera rire. Il n'y avait pas d'eau, que des volcans et de la lave. Au milieu de l'au-delà, ça valait pas la balade, mais les humains n'étaient pas là, donc c'était le calme. Plus tard, dans le couplet, ça ne sera plus le cas.
C'est le dernier morceau des rappeurs toulousains Big Flo et Oli. Vous aurez peut-être reconnu, mis en ligne dimanche sur leur chaîne YouTube. Ça va beaucoup trop vite, c'est le titre. Et la particularité, c'est la vidéo qui accompagne cette musique. Elle a été entièrement réalisée par intelligence artificielle. 49 225 images générées. Elle colle au texte, hein, vous irez voir, c'est pas très original. Quand on parle d'argent, on voit des billets de banque. Quand on parle de poissons, on voit des poissons. Aucun humain, en tout cas, n'est intervenu dans la vidéo. 200 000 vues en à peine 48 heures. Encore un mot de football, Fabienne, pour vous rappeler que le dernier match de préparation avant l'Euro ce soir pour les Bleus, c'est face au Chili, 21h à Marseille. Faudra faire mieux que la défaite face à l'Allemagne. Et puis sachez aussi que l'Ukraine joue sa qualification en match de barrage face à l'Islande.
Eh bien, tout est dit.